Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Le 7 décembre 1941, il y aura donc 70 ans demain, la base de la marine américaine dans les îles Hawaï subissait une attaque massive des Japonais. Franck Ferrand nous parle aujourd'hui de Pearl Harbor sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. En cette fin d'année 1941, l'amiral japonais Yamamoto a fait converger sur la rade de Pearl Harbor un ensemble de 423 avions, 6 porte-avions et 27 sous-marins en vue d'une attaque préventive de grande ampleur contre la flotte des États-Unis dans le Pacifique. Le dimanche 7 décembre, à 7h40 du matin, le mot d'ordre est lancé « Tora, Tora, Tora », ce qui en japonais veut dire « tigre, tigre, tigre ». La cible ce matin-là, ce sont plus de 90 navires de guerre américains surpris par l'attaque japonaise, 8 cuirassés, 3 croiseurs, 3 destroyers, 4 navires auxiliaires qui seront détruits, ainsi que 168 avions cloués au sol. Surtout, le raid japonais sur Pearl Harbor va faire 2403 victimes américaines, un véritable carnage dont l'impact sur l'époque peut être rapproché de celui du 11 septembre 2001 sur la nôtre.
Effectivement, les conséquences de cette attaque surprise sont en effet incalculables.
Oui, la principale de ces conséquences, c'est évidemment l'entrée en guerre des États-Unis qui jusque-là étaient peu pressés de s'impliquer dans le conflit mondial, conséquence si importante que certains historiens se sont demandé si à Washington, de hauts responsables n'auraient pas laissé la catastrophe se produire afin de provoquer un choc sur l'opinion. Pour parler de tout cela cet après-midi, j'ai la joie de recevoir Marc Ferraud, l'un de nos grands historiens et sans doute l'un des plus réservés à l'égard de toutes les vérités officielles.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Pearl Harbor, il y a 70 ans, jour pour jour, heure pour heure, c'était encore une sorte de petit paradis surarmé pour les soldats américains concentrés non loin d'Honolulu, dans cette rade peu profonde d'Hawaï, qui est un état américain, ne l'oublions pas, une rade qui est occupée en son centre par la petite île de Ford. Dans ce paysage luxuriant, il faut imaginer les plages, les palmiers et les fleurs exotiques, un univers de cartes postales. Dans ce paysage s'entassaient tout de même sur les quais et les môles de Pearl Harbor 96 navires de la flotte américaine du Pacifique. Il y a là 8 cuirassés parmi les plus grands de cette flotte américaine, le Maryland, le West Virginia, le Tennessee, le California, l'Arizona, le Pennsylvania, le Nevada, l'Oklahoma, tous ces énormes navires qui jaugent entre 29 et 30 et 33 000 tonnes, donc de très très grands navires. Et puis le long des quais, proue à poupe, parfois côte à côte, vous avez tous les croiseurs, tous les torpilleurs, une concentration formidable, une armada historique mais tranquille. C'est encore un refuge insouciant de la flotte du Pacifique que nous abordons là à Pearl Harbor. Le dimanche 7 décembre 1941, ce refuge va faire l'objet, vous le savez, donc d'une attaque groupée. Ce matin-là, 353 avions japonais qui ont été acheminés par porte-avions vont littéralement fondre sur cet objectif. Le but des Japonais, il est tout simple, il se résume à un mot, c'est l'anéantissement. Cela fait, il faut le dire, et on y reviendra tout à l'heure, cela fait des mois que les relations entre les États-Unis et le Japon, relations déjà rendues extrêmement difficiles du fait des alliances respectives dans la guerre, que ces relations ont pris le tour d'une guerre larvée. À l'été, après l'occupation de l'Indochine par les troupes nippones, les Américains ont gelé les avoirs japonais, des négociations très tendues ont commencé, enfin, plus exactement se sont poursuivies, elles avaient été lancées dès le printemps, et le 26 novembre, les États-Unis ont adressé au Japon une note extrêmement exigeante qui peut passer pour une provocation, c'est une sorte d'ultimatum, si vous voulez, c'est considéré par l'ensemble des observateurs de l'époque comme un grand pas vers la guerre. Or, au moment où les Japonais reçoivent cette note, un peu comme un gant jeté en plein visage, ils ont déjà donné l'ordre à leur armada de quitter les îles Kuril, direction Pearl Harbor. Ce qui du reste est très étonnant, c'est qu'en dépit de cette note très dure du 26 novembre, les Japonais n'aient pas jugé bon de rompre les négociations. Qu'est-ce qu'ils cherchaient, les Japonais, dans cette affaire? Est-ce que leur but était de gagner du temps? Nous allons revenir, en compagnie de mon invité, sur l'espèce de compte à rebours qui, pendant tout le début du mois de décembre 1941, nous rapproche de l'inéluctable. L'inéluctable, vous le savez, se produit donc ce dimanche 7 décembre à 7h40 du matin. C'est à ce moment-là que commence le blitz, c'est à ce moment-là que se déchaîne le feu du ciel. Ce sont des attaques extrêmement dures. Que va devoir essuyer la flotte américaine à Pearl Harbor. Je ne vais peut-être pas entrer dans tous les détails, mais dites-vous quand même qu'une première vague de 49 bombardiers qui portent chacun une bombe de 800 kilos anti-blindage fond sur la rade, et puis 40 bombardiers lance-torpilles, 51 bombardiers en piqué munis de bombes de 250 kilos, une escadrille de 43 chasseurs zéro qui assure eux la protection des bombardiers. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce déluge de feu et de fer, que cet enfer, va prendre place, alors vraiment comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, dans ce climat assez doux par ailleurs de Pearl Harbor. Vous allez avoir cet extraordinaire déchaînement dans une atmosphère avec un ciel bleu, quelques petits nuages, et puis cette radio américaine qui diffuse constamment des airs tranquilles du Pacifique. Il y a une sorte de paradoxe terrible dans cette scène qui va saisir le monde entier. On peut parler de stupeur planétaire devant cet événement que Churchill lui-même qualifiera d'immense événement mondial, si surprenant qu'il coupait le souffle même à ceux qui se trouvaient au cœur des affaires.
Sur Europe 1, extrait de la bande originale du film L'Empire du Soleil de Steven Spielberg. Restez avec nous, Franck Ferrand nous parle aujourd'hui de Pearl Harbor.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui nous plonge aujourd'hui sur Europe 1, au cœur de l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, Franck.
La grande question qui se pose à propos de Pearl Harbor, vous savez, Julia, c'est évidemment la question de l'information des plus hautes autorités américaines. Et on n'a aucun doute sur un point, c'est que les hauts responsables du Pentagone et à la Maison-Blanche, bien entendu, disposaient d'informations très claires quant à une attaque japonaise imminente contre Pearl Harbor. Si ces informations avaient été transmises, la flotte avait été transmise sur place, là-bas. La flotte du Pacifique aurait pris ses dispositions, on aurait probablement dispersé un certain nombre de navires au large, on aurait mis les avions en état de vol, ce qui aurait tout changé. Et évidemment, les Japonais qui avaient sur place des informateurs auraient été avertis de ce qui se passait, et peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils auraient ajourné ou modifié leur attaque. Bref, la catastrophe de grande ampleur qu'a été ce raid sur Pearl Harbor aurait pu être évitée. Ce qui est certain, c'est que, bien qu'informé, Washington n'a pas prévenu Pearl Harbor. Et dans ces conditions, on est devant une alternative. Soit il y a eu négligence, mais alors c'est une négligence à tous les échelons, négligence de tous les services concernés, ce qui paraît tout de même assez dur à admettre, soit on a choisi délibérément de ne pas transmettre l'information. La raison de ce choix, ce serait la nécessité de choquer l'opinion américaine pour l'amener à abandonner cet isolationnisme tellement traditionnel aux États-Unis et à accepter l'idée d'une entrée en guerre des États-Unis. Toutes les personnes influentes présentes à Washington à l'automne 41 ont témoigné et ont témoigné à l'infini de l'embarras du président américain face à la tiédeur de l'opinion américaine, mais aussi et surtout face à la tiédeur du Congrès des États-Unis. L'éventualité d'une guerre qui par ailleurs paraissait devenue inévitable, cette éventualité n'était pas du tout acceptée politiquement. On peut donc concevoir qu'à la Maison-Blanche, la catastrophe de Pearl Harbor ait pu apparaître comme une aubaine. Dans le mémorial de Roosevelt, qui a été rédigé d'après les papiers du principal conseiller diplomatique du président, on peut lire cette remarque. Les Japonais n'avaient qu'un seul moyen de tirer Roosevelt d'embarras, et c'est précisément ce qu'ils firent d'un seul coup, d'une manière si provocante, si insultante, si exaspérante, que l'opinion américaine, divisée et troublée, devint en un instant unanime et sûre de son bon droit. En 1955, le contre-amiral Theobald, qui avait subi sur place l'attaque japonaise, s'est rendu mondialement célèbre en publiant un ouvrage à scandale, « Le secret de Pearl Harbor », dans lequel il dénonçait ce qu'il considérait comme un véritable montage politique. Le brûlot rappelle un certain nombre de faits peu contestables. C'est vrai que dès l'été 41, les Américains décodaient les messages japonais grâce à des appareils qu'on avait appelés les Purple Machines, les machines pourpres. Ils étaient donc au courant des préparatifs. Et du reste, le 6 décembre, la veille de l'attaque, ils en connaissaient l'heure précise. Or, le quartier général de l'US Navy sur place, à Pearl Harbor, n'a pas été avisé de ces informations. Pire encore, un ordre de Roosevelt en personne, à la fin de l'été 41, avait interdit que les messages décryptés soient transmis au commandant américain de la flotte du Pacifique. Le fait demeure incompréhensible, écrit Theobald, à moins d'admettre que le président Roosevelt ait voulu que Pearl Harbor fût attaqué. L'hypothèse que formulait le contre-amiral Theobald dans ce livre est très audacieuse. Selon lui, le président Roosevelt et son état-major auraient donc volontairement créé une concentration vulnérable dans les îles Hawaï afin de servir d'appât aux Japonais, afin, si j'ose dire, de les pousser au crime. Nous allons voir dans un instant ce qu'il faut penser d'une hypothèse aussi audacieuse.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et jusqu'à 14h, Franck nous parle aujourd'hui de l'attaque japonaise contre Pearl Harbor. C'était le 7 décembre 1941.
Alors, on peut dire que 50 ans après, la vision hyper machiavélique du contre-amiral Theobald ne semble pas tenable. Le président américain ne pouvait pas manœuvrer les Japonais comme si ça avait été autant de pions sur un échiquier. Il n'avait aucun moyen de maîtriser les conditions d'une attaque telle que celle qui s'est produite. Et surtout, et c'est là qu'il est très important de se replonger dans le contexte, en 1941, on peut dire qu'une attaque aéronavale de cette ampleur, à cette distance des bases, n'avait jamais existé dans l'histoire. C'est du reste cette extrême nouveauté qui a créé la surprise et le choc. Ce que pouvait néanmoins prévoir le président des États-Unis, c'est qu'une telle puissance de feu ait pu passer inaperçue. Vous imaginez comment penser que tous ces avions japonais allaient échapper au contrôle des Américains qui, par ailleurs, avaient installé un système de surveillance ultra performant dans toute la région. Alors, sans entrer dans tous les détails, il paraît hautement improbable que Washington ait froidement planifié la destruction de ses propres forces à Hawaï. Cette accusation extrême de Theobald et d'un certain nombre d'autres contre Roosevelt ne paraît pas tenir. Mais, si le président peut être mis hors de cause à ce stade, il semble beaucoup plus difficile de le laver d'une autre accusation plus subtile. Et si Roosevelt, informé de ce qui se préparait, et nous avons vu que ces informations sont-elles incontestables, et si Roosevelt avait sciemment laissé les choses suivre leur cours, et si, sans être allé jusqu'à tendre un piège aux Japonais, les hauts responsables de Washington avaient sauté sur l'occasion qui leur était offerte de créer un électrochoc sur l'opinion et sur la classe politique américaine afin de modifier le cours de la guerre. Alors voilà qui semble déjà plus possible. Je me suis rappelé en préparant cette émission une très belle émission télévisée d'Alain Decaux sur le sujet. C'était il y a une bonne trentaine d'années et voici ce que disait Alain Decaux. Il disait « Ceux qui pensent que Roosevelt a sciemment négligé d'avertir les forces du Pacifique citent un texte d'un des principaux collaborateurs de Roosevelt qui s'appelait Stimson. On trouve dans le journal de celui-ci un passage assez extraordinaire, nous dit Alain Decaux. Alors je cite le passage en question. Le président observa, c'est Stimson qui écrit, observa que les Japonais étaient réputés pour leur manière d'attaquer sans avertissement préalable et que nous pouvions être assaillis le lundi suivant, par exemple. Le lundi suivant, c'est le 8 décembre en l'occurrence. Un problème nous inquiète à fort. Quand vous savez que votre ennemi va frapper, il n'est pas sage ordinairement d'attendre qu'il bondisse sur vous. Cependant, en dépit du risque encouru, en laissant les Japonais tirer le premier coup de canon, nous comprîmes que pour obtenir l'appui total du peuple américain, il était désirable de les laisser faire, pour que personne ne pût nourrir le moindre doute sur ce qu'étaient les agresseurs. Il s'agissait de savoir comment nous pouvions amener les Japonais à une situation où ils tireraient le premier coup de canon sans nous exposer à un trop grave danger. Ce n'était pas facile. Voilà donc ce qu'écrit Stimson dans son journal. Vous avouerez que c'est assez stupéfiant. Alors, conclut toujours Alain Decaux, ce n'était pas facile, mais est-ce que pour autant cela a été fait? Ce qui est certain, c'est que tout s'est déroulé comme si ça avait été fait. Mais ça ne prouve en aucune manière que cela a bien été fait. Vous voyez toute la subtilité, toute cette batmologie, si je puis dire, de la question qui se pose à propos de Pearl Harbor. Alors à mes côtés, dans ce studio, se trouve Marc Ferraud, que n'ont pas oublié notamment les fidèles de l'émission Histoire Parallèle, émission culte d'Arte. À propos de la responsabilité de Roosevelt, Marc Ferraud défend, lui, une thèse, vous allez voir, très subtile, très nuancée et qui, entre nous, me paraît très convaincante. Je vous propose de découvrir cette thèse dans un très court instant.
Extrait de la bande originale du film Pearl Harbor, Franck.
Bonjour Marc Ferraud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être des nôtres. Je rappelle évidemment que vous êtes le directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, une bonne maison que je connais pas mal, que vous êtes également membre du comité de direction de la très prestigieuse revue des Annales. Vous êtes un spécialiste de cette époque et vous avez cet avantage, me semble-t-il, par rapport à un certain nombre de vos confrères, de ne pas forcément enfourcher les grands chevaux habituels. Vous essayez souvent d'analyser les choses en dehors des vérités officielles. Alors, sur cette question de Pearl Harbor, c'est quand même très intéressant de savoir ce qu'il en est, déjà, du degré d'information des autorités américaines. Est-ce qu'on peut admettre, avant de parler des dysfonctionnements, est-ce qu'on peut admettre qu'un certain nombre de très hauts responsables savaient ce qui allait se passer?
On peut dire qu'ils pouvaient le savoir.
Ils avaient les moyens de le savoir.
Oui, puisque plusieurs indices avaient laissé entendre qu'une attaque pourrait avoir lieu. D'abord, une information dont personne n'a tenu compte. C'était les actualités Paramount de novembre.
Dès le 13 novembre.
Le 13 novembre, qui montrait qu'une attaque du Japon pourrait se produire sur Pearl Harbor. Alors pourquoi on n'y a pas fait attention? Parce que ces messieurs du département d'État n'ont jamais considéré qu'à l'époque, les actualités fussent quelque chose de fiable. C'était des hommes de cabinet, c'était des hommes qui ne croyaient pas du tout aux informations qui ne venaient pas de leur propre savoir. Donc, ils n'ont même pas su que ce sujet existait, Edin. Ensuite, il y a eu des informateurs, notamment un Serbe, qui s'appelait Popov, qui a su par Berlin et par Tokyo qu'il y aurait cette attaque. Il l'a su et il l'a dit à ce qui n'était pas le CIA encore, mais le FBI. Mais le chef du FBI n'y a pas cru. Il n'a pas cru pour des tas de raisons. Alors la première raison est, comment dirais-je, grotesque. C'est que l'informateur avait des mœurs ambiguës, dirions-nous, et qu'il lui a dit, il a répété, on ne peut pas croire aux informations d'un type qui tient un bordel. Alors c'est quand même assez curieux parce que au même moment, Staline n'avait pas cru aux informations de qui vous savez, qui lui annonçait de Tokyo, que l'Allemagne attaquerait la Russie en juin, c'est-à-dire 6 mois plus tôt. Et pour la même raison, c'est que l'homme en question était un peu ambigu lui aussi par ses mœurs.
Il faut le nommer, oui.
Oui, son nom nous est connu, c'est, comment s'appelait-il donc, que je m'en souvienne.
On va le retrouver.
Oui, je vais le retrouver, ça va revenir dans quelques secondes. Cet homme avait la spécialité d'être l'amant des principaux personnages des ambassades à Tokyo, et par la femme de l'ambassadeur d'Allemagne, il a su le secret des secrets. Donc, Staline n'a pas voulu le croire pour cette raison, et pour une autre raison, c'est que c'était un ancien trotskiste. Alors, pour un stalinien, la parole d'un trotskiste ne peut que ne pas être fiable. Donc nous avons d'abord la même bêtise d'origine. Mais ça, c'est rien. Le plus important, c'est que Roosevelt et les Américains ne pouvaient pas imaginer une attaque sur Hawaï.
Pour eux, vous pensez que c'était impensable?
C'était impensable. D'abord, à cause de l'arrogance d'une grande puissance qui ne peut pas imaginer qu'un État, malgré tout secondaire, comme, pas secondaire, mais enfin pas à sa hauteur, comme l'était le Japon, puisse oser attaquer le territoire des États-Unis. Ils pensaient qu'ils attaqueraient les Philippines ou Singapour. Or, s'ils attaquaient les Philippines ou Singapour, ce n'était pas une cause de guerre. Roosevelt avait dit lui-même, comme pour les tenter d'attaquer plutôt Philippines.
Comme pour les pousser à attaquer un peu plus loin, en
mais
fait.
Mais ailleurs.
Ou ailleurs.
Et sans grandes conséquences, peut-être.
On va voir quand même ce qu'il faut penser de ce que nous disent les témoins dans l'entourage immédiat de Roosevelt sur l'attente, parce qu'il y avait une véritable attente de quelque chose, d'un événement à Washington. Nous nous retrouvons dans un instant, Marc Ferraud.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1, c'est l'historien Marc Ferraud.
Marc Ferraud qui nous disait donc qu'en fait, ce serait plutôt une sorte non seulement de négligence, mais d'incompétence à plusieurs niveaux qui serait à l'origine de, et d'incrédulité de la situation elle-même, qui serait à l'origine de la non-réaction des Américains à tout ce qui se tramait concernant Pearl Harbor.
Oui, mais alors tout ce que vous avez dit et qui sont des supputations.
Oui, bien sûr, oui.
Ne disent pas encore, on n'a pas encore dit, l'essentiel. C'est-à-dire que Roosevelt, pour lui, l'ennemi principal, c'était l'Allemagne. Ce n'était pas le Japon.
Et si on a une vision très côte est, finalement, voilà. Roosevelt. Pour lui, la guerre se joue en Europe et c'est Hitler qu'il faut battre plus que le Japon. Enfin, avant le Japon, en fait. C'est plus important.
Oui, parce que si on... c'est la guerre avec l'Allemagne, l'Allemagne sera à se battre sur deux fronts. Le front ouest et le front russe.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de Pearl Harbor, l'Allemagne va s'empresser de déclarer la guerre aux États-Unis. C'est ce que voulait finalement le président Roosevelt.
Oui, mais ça c'est un autre problème. Il ne faut pas les mélanger. Si Hitler déclare la guerre aux États-Unis juste après Pearl Harbor, c'est parce qu'à ce moment-là, il cale devant Moscou, il se rend compte, et ça c'est établi maintenant, que la guerre de Russie ne sera pas celle qu'il imaginait. Et pour faire passer la mauvaise nouvelle, d'une certaine façon, et pour pas que l'Allemagne se voie déclarer la guerre par les États-Unis, ce qu'il craint et ce qui affaiblirait le moral des Allemands, Hitler veut prendre les devants et déclarer la guerre pour montrer que, décidément, c'est nous qui menons en quelque sorte la guerre à notre volonté, selon notre rythme, à nous, et il ne faut pas laisser les Américains nous déclarer la guerre. Or, Roosevelt ne pouvait pas déclarer la guerre si le territoire américain n'avait pas été attaqué. Il l'était par les Japonais, mais pas par les Allemands.
Eh oui.
C'est ça la clé du problème. Et Roosevelt, on peut croire qu'il a fait exprès pour le Japon, parce que pour que l'Allemagne l'attaque, il avait utilisé toutes sortes de ruses. Roosevelt est un des hommes les plus rusés de l'histoire. Il avait trouvé 1000 manières d'agresser en sous-main l'Allemagne pour qu'elle déclare la guerre et qu'ainsi il puisse entrer en guerre sans apparaître responsable d'un conflit ayant lui-même promis que jamais il déclarerait la guerre.
Donc s'il l'avait fait avec l'Allemagne, pourquoi pas avec le Japon, finalement?
Oui, parce mais le Japon n'était pas pour lui le danger principal.
Ce pas un objectif, c'est ce que vous nous dites.
N'est-ce pas?
Alors, Stéphane Loisel nous dit par Facebook qu'en fait, il faut noter qu'aucun porte-avions n'était quand même au mouillage à Pearl Harbor. C'est un fait, en tout cas. On parlera plus, nous disent-ils cependant, d'incrédulité généralisée, c'est ce que vous nous dites, ou carrément d'incompétence à tous les niveaux. Alors, on revient sur notre trou de mémoire de tout à l'heure, Marc Ferraud. Alban nous dit, je crois que la personne que vous cherchez est Richard Sorge, et du reste un autre message qui était arrivé avant me disait, allez-vous évoquer le fait que le président Roosevelt était au courant de l'attaque grâce à l'espion soviétique Sorge et qu'il a laissé faire afin de laisser entrer les États-Unis en guerre? Vous voyez que cette idée-là est quand même très ancrée.
Oui, mais enfin Sorge n'est pas dans le coup, si j'ose dire, pour cette agression-là. Par contre, il était pour celle de l'Allemagne sur la Russie.
Et Marie-France nous demande toujours par le biais de Facebook si nous allons parler de Churchill qui, plus encore que Roosevelt, savait à l'avance l'ampleur de l'attaque. Je crois qu'au contraire, Churchill a été très surpris quand il était en train de dîner avec l'ambassadeur des États-Unis ce dimanche soir, quand il apprend tout simplement par la radio qu'il y a eu cette attaque japonaise contre la flotte américaine. Il a l'air d'être le premier surpris.
Il est surpris, mais il s'attendait quand même à une attaque, pour autant que, ne l'oubliez pas, la France avait été vaincue, donc il y avait tout un champ qui s'ouvrait aux Japonais du côté de l'Indochine ou ailleurs. les Pays-Bas également, donc l'Indonésie. Et du même coup, il paraissait évident que le Japon allait s'engouffrer dans cette brèche, la marine y poussant contre l'armée qui voulait se battre contre les Russes, plutôt, vous voyez. Et de ce fait, on pensait qu'il y aurait une attaque japonaise, mais qui ne mettrait pas en cause les États-Unis, qui joueraient le rôle un peu de gardien, d'arbitre, et qui pensait bien qu'il l'avait dit, les Philippines n'étaient pas un cas de guerre, Singapour encore moins, puisque c'était anglais, les Indes néerlandaises encore moins. Donc, les Américains, d'une certaine façon, attendaient les événements. Et ils s'attendaient certes à une attaque, mais pas directement contre eux. Cela dit, il faut ajouter encore un détail, c'est que bien des amiraux japonais pensaient qu'une fois Pearl Harbor attaqué, ils débarqueraient en Californie. Les Japonais pensaient aller plus loin que ce que voulait l'empereur. Et ça, c'est aussi un fait qu'il faut noter, parce que ça a été une grande désillusion qui a frappé le moral des Japonais, qui ont bien vu que certes, ils avaient accompli un exploit, mais qui n'avaient pas de suite.
Oui, c'était un exploit qui finalement reste, toute proportion gardée, relativement contenu.
Délimité. En
fait, délimité, exactement. Nous venons sur un certain nombre d'autres dysfonctionnements dans un instant avec vous, Marc Ferraud. Et je vous rappelle qu'il est toujours temps de jouer pour cette affaire de hôte de Noël.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
L'historien Marc Ferraud est toujours votre invité sur Europe 1 Franck. Il est auteur notamment de « Ils étaient sept hommes en guerre », publié chez Robert Laffont en 2007 et réédité aujourd'hui chez Tempus.
Oui, et dans lesquels un chapitre, enfin tout un début de chapitre est consacré à cette affaire de Pearl Harbor. Et notamment, car vous les pointez, vous les répertoriez à tous les dysfonctionnements qui se sont accumulés dans cette affaire. Parce que s'il n'y a pas de cécité programmée de la part des Américains, alors c'est qu'il y a des négligences et des dysfonctionnements même difficiles à expliquer. Notamment pour ce qui est des décodeurs, tout simplement, puisqu'on savait décoder le code japonais.
Oui, mais il n'y en avait pas à Pearl Harbor.
Mais pourquoi, justement ?
Parce que les Américains, encore une fois, ne pouvaient imaginer qu'on se permettrait une attaque sur les États-Unis, sur les Philippines, pourquoi pas. Donc il y avait des décodeurs ailleurs, n'est-ce pas ? Il y en avait à Panama, sait-on jamais ? Parce que rappelez-vous, déjà en 14-18, les Américains avaient craint un débarquement japonais au Mexique ou par là-bas.
Absolument.
Donc il y avait des décodeurs à Panama, il y avait des décodeurs à San Diego, il y avait des décodeurs à San Francisco, il y en avait aux Philippines, mais il n'y en avait pas à Hawaï. Ça c'est un. Puis leur deuxième dysfonctionnement, Marshall, qui commandait toutes les forces américaines, n'est-ce pas, ne veut pas utiliser le téléphone de peur que les Japonais l'interceptent. Donc il utilise le télégraphe. Mais le télégraphe est envoyé par ordre d'abord à Panama, encore une fois, ensuite à San Diego, encore une fois, ensuite aux Philippines et à Hawaï en dernier. Si bien que quand le télégraphe qui annonce un grand risque pour Hawaï, à Hawaï, quand il arrive, c'est trop tard, l'attaque a déjà eu lieu. Donc voilà deux types de dysfonctionnements. Mais il y en a eu bien d'autres.
Il y a aussi un dysfonctionnement plus humain, en quelque sorte. C'est dans l'appréhension des hauts responsables militaires, je pense à MacArthur ou d'autres, devant un certain nombre d'informations qui leur arrivent et qu'ils négligent. Alors, peut-être pas volontairement, mais
ils n'y croient pas.
C'est donc de l'incrédulité. Hein. C'est bien le terme qu'il faut retenir.
C'est de l'incrédulité. Et puis, alors, sur place, il y a une surprise, n'est-ce pas ? Et il y a un document d'actualité qui a été retrouvé par Costel et... Il y a très très longtemps, où on voit très bien que des GI qui sont là à Hawaï, quand ils voient les bombardements, croient que ce sont non pas de vrais bombardements, mais que ce sont des préparations, des exercices. Et on répète à la radio, ça n'est pas un exercice, ça n'est pas un exercice, ça n'est pas un exercice.
D'ailleurs, les avions qui arrivaient, on pensait qu'ils arrivaient de Californie, pour certains.
On pensait qu'ils arrivaient du Nord. Ben, ouais. Ils arrivaient du Nord, parce que l'astuce avait été de les faire passer près des côtes russes. Et c'est là aussi un vrai problème, c'est qu'il fallait qu'ils passent près des côtes russes, mais pas trop près, parce que le Mikado ne voulait pas de conflit avec la Russie à ce moment-là.
Et puis surtout, il fallait arriver de façon furtive. Comment les Japonais ont-ils pu faire pour que tout ça passe, entre guillemets, inaperçu ? Ça, c'est incroyable. Ce sont d'énormes préparatifs, tout de même.
C'était d'énormes préparatifs. Depuis plus d'un mois, ils avaient préparé cette opération, mais c'était très secret. Et puis alors, il y avait aussi des ruses, n'est-ce pas ? Ils avaient fait de la contre-information. Par exemple, il y avait un navire qui devait partir de Yokohama vers les États-Unis à cette date-là. Et pour pas qu'il y ait de doute ou de suspicion, ils ont fait partir le navire, comme si de rien n'était.
Et l'opération d'intoxication, là, on va
dire. Intoxication. Ouais.
Alors, Marc Ferraud, on peut dire que vous venez de casser toutes les belles constructions de complots qui avaient pu être montées depuis les années 50 sur cette affaire de Pearl Harbor. Est-ce que vous admettez au moins que le président Roosevelt trouvait son compte à ce qui s'est passé ?
Ah oui, parce que sa première remarque quand il y a eu l'attaque des Japonais, ça a été de dire « ma responsabilité est dégagée ».
C'est ça.
Donc il y avait bien quelque chose. Parce qu'on le soupçonnait précisément d'avoir fait exprès, mais on le soupçonnait pour des mauvaises raisons, parce qu'il faisait exprès de faire que l'Allemagne lui déclare la guerre, ce qui est tout à fait autre chose. Alors là, il y a quand même deux, trois manœuvres assez géniales de Roosevelt, n'est-ce pas ? Alors la première, c'était d'inventer cette histoire cash and carry, c'est-à-dire de livrer aux Anglais ou à d'autres cash and carry, c'est-à-dire payer cash et emporter. Si bien que les Allemands ne pouvaient pas venir pour emporter, puisqu'il fallait emporter soi-même. Donc ça, c'était une manière de ne pas trahir les actes de la Constitution qui interdisent d'envoyer des armes à un pays en guerre. Alors, ils ne les envoyaient pas, il fallait venir les chercher, Hédin. Ensuite, il y a eu l'idée, n'est-ce pas, autre chose, qui était de le prêt-bail. C'est-à-dire qu'on ne donne pas des armes, on les prête. C'est l'apologue du jardinier qu'a inventé Roosevelt. Quand il y a une maison en feu, on peut prêter l'arrosoir, mais ça ne veut pas dire qu'on le donne. Donc, ils respectaient la Constitution. Donc, toutes ces ruses, n'est-ce pas, laissaient présager d'un coup de Roosevelt, qui en était familier.
Donc, nous ne sommes pas dans la préméditation, mais bien dans la ruse et l'incrédulité. C'est peut-être ce qu'il faut retenir de cette affaire de Pearl Harbor.
C'est le vrai couple. C'est le vrai couple.
Et c'est ça. Merci beaucoup, Marc Ferraud, de nous avoir éclairé sur cette affaire. Vous êtes l'auteur, alors, entre autres, très nombreux ouvrages de 1917, Les Hommes de la Révolution. Ce sont des portraits de tous les grands acteurs de cette révolution russe. C'est publié chez Omnibus. Et puis, des entretiens avec vous. Autobiographie intellectuelle avec Gérard Jorlan, qui est paru chez Perrin cette année. Et également Mes histoires parallèles, ça ce sont des entretiens avec Isabelle Véramasson et c'est publié chez Carnet Nord également cette année. Merci beaucoup Marc Ferraud. Et bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck. Alors aujourd'hui, comme chaque mardi, on plonge dans l'univers du travail, dans le monde de l'emploi et on s'intéresse à notre image. Comment bien gérer notre image et surtout, comment bien communiquer, comment éviter les parasites entre l'émetteur et les recepteurs pour que nos messages soient bien compris. Il existe des outils pour cela, les experts vont vous les donner, vous les transmettre et vous pouvez toujours les appeler au 3921, c'est toujours 34 centimes d'euros la minute pour vos questions ou europe1.fr.
Et moi je voulais vous signaler que les éditions Pierre de Taillac ont fait paraître un très bel album sur Pearl Harbor, c'est la traduction d'un album américain de Dan Van Der Vaart, il y a toutes les photos etc. et toute la première partie de l'album est sidérante car on y voit justement cette espèce de paix tranquille qui régnait dans ce petit paradis.
Ce
avant
paradoxe
que...
dont vous parliez. Ouais,
exactement. À demain, Julia.
Je serai là demain, Franck, sur Europe 1.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.